Vous écoutez Au-delà de la Grande Muraille, l'émission Hors les Murs d'Histoire d'Asie. De certaines expositions, on ne souhaite pas en sortir. Même après avoir vu le moindre détail de chaque pièce, lu tous les panneaux et cartels, ou regardé chaque extrait vidéo. L'exposition Ultime Combat, Arts Martiaux d'Asie au musée du Quai Branly est de celle-ci. Certes, c'est ici le passionné d'Asie qui parle. Celui qui ne se lasse pas de regarder l'hirondelle d'or, estourbir quelques moines lubriques ou de rigoler devant une acrobatie de Jackie Chan. Mais même sans être un aficionados, Ultime Combat fera vibrer le passionné d'histoire, l'amateur d'art, le cinéphile ou le simple curieux devant la richesse de l'exposition. Pour vous allécher de ces trésors et finir de vous convaincre de réserver au plus vite votre billet, laissez ces deux commissaires, Julien Rousseau et Stéphane Dumenildo, vous en faire la visite. Avocatana, Munchaku ou Sai, et découvrez l'ultime combat dans ce premier épisode d'Au-delà des murailles. Lorsque l'on pense aux arts martiaux, on a très vite en tête des images de films, de victoires au judo aux Jeux Olympiques, mais l'origine de ces sports nous est mal connue. C'est pourquoi le premier espace est essentiellement consacré aux origines mythiques des arts du combat.
Et on arrive dans cette première partie, accueillie par des gardiens qui sont assez imposants, hein, vous voyez ici, et qui sont inspirés dans leur lointaine origine par d'anciennes divinités locales indiennes, pré-bouddhiques, et qui ont été en quelque sorte assimilées à des démons, et qui ont été ensuite convertis au bouddhisme et qui sont devenus des protecteurs du Bouddha et de son enseignement. L'iconographie de ces gardiens en Asie orientale s'inspire de ce personnage qui est tout à fait intéressant et qui est Vajrapani, et qui est lui-même inspiré de Héraclès, l'Hercule en fait, hein, du monde gréco-romain, puisqu'il apparaît au Gandhara, une région située entre l'actuel Afghanistan et Pakistan, dans laquelle se trouvaient d'importantes colonies grecques depuis la venue d'Alexandre le Grand en Inde quelques siècles plus tôt. On retrouve cette influence du Vajrapani et cette lointaine héritage gréco-romain dans le drapé, vous voyez, qui est assez naturaliste, et aussi dans le torse nu du personnage, puisque c'est quelque chose qui est inhabituel dans l'art chinois que de représenter des personnages torse nu. Et il évoque bien sûr la force, et ces gardiens de temple vont devenir des modèles et des divinités, notamment pour les moines Shaolin en Chine qui vont pratiquer les arts martiaux plus tard. Voilà d'autres exemples de gardiens. Vous voyez bien l'aspect farouche en fait de ces gardiens, leur lien avec ces anciennes divinités du sol qui ont été assimilées à des démons, mais c'est aussi pour traduire leur dimension protectrice. Voilà. Et à droite, ici, on a un groupe de sculptures qui sont des rois célestes. En fait, ce sont des gardiens de statut supérieur puisqu'ils protègent les étages célestes, et on les représente vêtus en armure. Et on peut les voir dans le film présenté ici.
Donc oui, ça c'est Détective Di de Tsuark, où on a un combat de Kung-Fu directement sur les statues, bon, ce qui montre bien l'affiliation entre ces rois célestes et la pratique des arts martiaux. Donc voilà, on reconnaît évidemment, ce sont les mêmes visages et les mêmes couleurs. Et ça permet aussi de commencer l'exposition avec un grand cinéaste qui est Tsuark, qui est aussi qui se situe entre deux pôles, un côté très traditionnaliste, mais un côté aussi très iconoclaste. Et on va voir que les statues sont détruites au cours de la bataille. Donc ça, c'est le côté iconoclaste aussi du cinéaste.
Cependant, si le Japon et la Chine se partagent la part du lion dans l'expo, une part est faite également à l'Inde et ses dieux, ses récits en couleur, comme le Ramayana.
On arrive maintenant dans la partie qui est consacrée aux divinités hindoues, cette fois de la guerre, et qui sont liées à la pratique martiale. Donc il y a bien sûr le dieu Vishnu, que vous voyez ici dans sa forme suprême, qui est le gardien en fait de l'ordre socio-cosmique créé par les dieux. Et ce dieu, donc Vishnu, incarne la double fonction royale, la fonction économique et militaire. Donc il apporte à la fois la prospérité et le maintien de l'ordre. Il se montre beaucoup plus accessible lorsqu'il descend sur Terre sous la forme d'avatar. En fait,
le terme avatar vient du sanskrit avatara et il signifie littéralement descente. Et ce sont les formes que dont prend Vishnu pour descendre sur Terre, pour sauver justement l'ordre de l'univers et combattre les démons. On voit ici sur ces jeux de cartes qui prend des formes animales puis humaines, suivant un ordre qu'on a parfois rapproché de l'évolutionnisme, donc depuis le poisson, la tortue, le cochon, etc., jusqu'aux formes humaines plus parfaites. Mais ces iconographies martiales, elles traduisent surtout la plus grande proximité dont font preuve les dieux lorsqu'ils combattent, puisqu'ils viennent descendre sur Terre pour sauver en fait leurs fidèles. Et ce sont donc des images très populaires. Juste ici, on a cette fois des représentations de la grande déesse qu'on appelle Devi dans l'hindouisme et qui peut prendre elle aussi un grand nombre de formes avec une certaine ambivalence. Hein, c'est à la fois une déesse maternelle, destructrice, bienveillante ou guerrière. Mais cette déesse, elle incarne dans l'hindouisme ce qu'on appelle la Shakti, c'est la puissance divine. La force divine. Et les guerriers, d'ailleurs, avant les combats, vénéraient cette déesse, notamment sous la forme de Durga, justement pour s'attirer cette force divine avant les combats. Mais comme souvent dans l'art indien, les images ont plusieurs niveaux de sens, ont un double niveau de sens. Et en plus d'illustrer la guerre et le pouvoir des militaires, Elle représente aussi le processus de libération, puisque la déesse ici terrasse un démon buffle, et le buffle est le véhicule de Yama, le dieu de la mort. Donc c'est une allégorie en fait du processus de délivrance individuelle du cycle des réincarnations. Le combat donc illustre d'une part le fait que ce sont les guerriers, donc la caste des guerriers de l'Inde ancienne, qui ont financé les arts, et donc ils ont cherché à travers ces images à se représenter eux-mêmes et à projeter leurs propres activités militaires dans le domaine divin. Mais en même temps, ils ont ces images martiales, comme on disait tout à l'heure, elles traduisent une plus grande proximité du dieu, et c'est à travers des formes plus agissantes et plus proches en fait de leurs fidèles. Et le Ramayana, qui a inspiré un grand nombre d'arts populaires, a justement beaucoup développé ses cultes dévotionnels, et notamment au dieu Vishnu sous la forme de son avatar Rama, comme on peut le voir dans le Ramayana.
Alors parmi les avatars et donc de la descente sur Terre des dieux, il y a évidemment le cinéma, qui fait l'objet aussi d'un véritable culte en Inde. Dans les adaptations justement du Ramayana et de l'épopée d'Ishnu. Donc là, on en a quelques exemples. J'ai choisi évidemment des scènes de combat. Alors là, on a Hanuman avec sa célèbre masse, voilà, qui est son arme de prédilection. Voilà, ce sont des films qui ont une imagerie assez naïve, mais qui sont tout à fait en accord en fait avec les représentations. Hein. Si on regarde à la suite, on va retrouver exactement les mêmes. Les mêmes motifs. Voilà, donc le cinéma est encore une fois une façon de raconter ces histoires et de leur donner une dimension vraiment d'objet de culte et de dévotion. Ce sont des films où on s'y plonge pendant 4 heures, il y a de l'aventure, il y a des chants, il y a des danses, et les acteurs eux-mêmes sont parfois vénérés à l'égal de divinité.
D'autres enfin, là, on a une scène vraiment centrale du récit du Ramayana, c'est l'enlèvement de la princesse Sita avec donc un piège en fait, qui avait été imaginé par les démons d'envoyer une biche dorée, donc, qui est en fait un démon qui s'est transformé, pour attirer Rama, donc l'avatar de Vishnu, et l'éloigner de la princesse qui va se faire enlever bientôt et qui sera retenue captive sur l'île de Lanka, et c'est là que l'intrigue vraiment commence. Ici, on a un ensemble de masques dédiés à ces personnages du Ramayana, avec une attention particulière à ce personnage dont on parlait tout à l'heure, qui est Hanuman, le général de l'armée des singes. C'est un personnage essentiel dans le récit parce qu'il va combattre aux côtés des héros, il va permettre la victoire. Et dans le Ramayana, on voit aussi quelque chose d'intéressant, ce sont les premières représentations, enfin descriptions dans le texte, des arts martiaux. En fait, on voit le tir à l'arc, la conduite du char, et aussi la lutte, donc, qui est illustrée par Hanuman, donc le général de l'armée des singes, et qui va rester jusqu'à aujourd'hui une divinité tutélaire pour les lutteurs. Voilà, il est vénéré à la fois pour sa force, bien sûr, parce que c'est un personnage à la force surnaturelle, mais aussi pour sa loyauté, parce qu'il va se sacrifier dans le récit pour Rama.
Et quoi de mieux qu'un voyage vers l'ouest à la rencontre du roi singe pour clôturer cette histoire mythique du combat.
La deuxième partie de l'exposition sur la Chine, cette transition avec cette histoire qui a une portée particulière par rapport au domaine des arts martiaux, c'est l'histoire du voyage vers l'ouest qui raconte le périple du moine Xuanzang, qui est un moine bouddhiste parti en Inde à la recherche de textes religieux, donc de sutras, pour les faire traduire en chinois. Et sur son chemin, il va rencontrer des personnages particulièrement dangereux, une sorte de démon, dont le singe Sun Baijie et le singe Sun Wukong. Ces personnages vont en fait être convertis au bouddhisme et ils vont l'escorter en fait sur son voyage jusqu'en Inde. Et cette histoire, bien sûr, elle a été adaptée au théâtre. Ici, on a un ensemble de costumes de l'opéra de Pékin. Alors, les arts martiaux ont un lien aussi très, très fort avec les arts du spectacle, beaucoup en Chine d'ailleurs, parce que l'opéra de Pékin, c'est un opéra qui est très, très spectaculaire, avec beaucoup d'acrobaties. Les acteurs eux-mêmes d'ailleurs étant formés à l'opéra de Pékin, les acteurs de cinéma de Kung Fu. Voilà, on retrouve les mêmes personnages sur ces figurines, enfin ces marionnettes à tige. Et puis bien sûr, Dragon Ball s'inspire librement en fait hein, de cette histoire qui est peut-être d'ailleurs plus connue en France à travers ce manga et cette série animée entamée au milieu des années 80. Et donc le moine Xuanzang a été remplacé par la jeune Bulma. Le cochon est devenu Oolong et le moine des sables est devenu Krilin. Et bien sûr, Sun Wukong, le roi singe, est devenu Son Goku, le personnage principal, qui a gardé son bâton magique et son nuage magique aussi, comme dans la version originale chinoise. Et ce personnage du roi singe va devenir aussi une divinité pour un grand nombre d'écoles martiales en Chine. Et il utilise aussi cette arme qui est vraiment emblématique en fait des arts martiaux chinois, qui est le bâton et qui est l'arme des moines Shaolin.
Mais le but de l'exposition, c'est aussi d'historiciser les arts martiaux, d'où cette très belle salle sur les moines de Shaolin, inventeurs du Kung Fu, et qui revient sur la riche histoire du monastère qui s'entremêle à celle des dynasties chinoises.
Nous voilà arrivés au temple Shaolin, qui est le berceau plus ou moins historique ou légendaire d'un grand nombre d'écoles martiales chinoises. Le temple, d'après la légende, aurait été fondé par le moine Bodhidharma, qui est un moine pèlerin qui serait venu d'Inde, donc du Kerala. On considère d'ailleurs que c'est aussi le fondateur du Kalaripayat, art martial d'Inde du Sud. Et donc selon cette histoire, on dit que le moine donc serait resté une dizaine d'années en méditation dans une grotte face à un mur, qui porte toujours sa trace d'ailleurs, et il aurait ensuite enseigné les techniques d'entraînement et de combat aux moines qui seraient toujours en vigueur aujourd'hui. Plus historiquement, on sait que c'est à partir de la période Tang, donc autour du 7e, 8e siècle, que les moines Shaolin commencent à prêter main forte aux armées impériales pour les aider à combattre contre les dynasties rivales ou des rébellions intérieures. Mais au départ, les moines combattent en fait comme d'autres soldats conscrits c'est-à-dire parmi d'autres soldats sans qu'ils se distinguent par leur technique particulière. C'est plus tard, à partir du XIIe siècle, qu'ils vont vraiment utiliser des techniques spécifiques, voilà, qui sont décrites ici dans le film Shaolin Boxer, que Stéphane va vous parler à l'instant. Mais à partir de cette période, donc plus tard, à partir du XIIe siècle, ils se distinguent par leur maniement du bâton, qui est le seul objet finalement que les moines possèdent, c'est un bâton de pèlerin. Des techniques de souffle qui leur permettent, acquises par la méditation bouddhique, et qui leur permettent une préparation mentale au combat, donc à renforcer à la fois le corps et la force mentale. Et aussi une gestuelle inspirée parfois des gestes canoniques du Bouddha, ce qu'on appelle des mudras, dont la fameuse main de fer de Shaolin. Dans la section suivante, on a illustré un thème aussi classique du cinéma, qui est celui de Manchu contre Shaolin. Donc historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les moines qui étaient entraînés donc, à combattre déjà au départ, je disais dès le 7e, 8e siècle, dans les armées, parce qu'ils étaient entraînés à défendre leur temple contre les brigands, puisque le temple Shaolin, qui a été construit dans la province du Henan, était un haut lieu de pèlerinage pour les adeptes du bouddhisme qu'on appelle Chan en Chine, et qui est plus connu sous le nom japonais de Zen. Et donc ces moines qui étaient entraînés déjà à combattre sont devenus des alliés des armées impériales, ce qui leur avait eu le soutien des différentes dynasties successives jusqu'à la période Ming, où là vraiment les moines sont, on peut voir ici une représentation d'un soldat d'époque Ming, où là les moines sont vraiment le plus impliqués dans les affaires militaires. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque les Ming seront remplacés par une dynastie d'origine étrangère, d'origine Manchu, dynastie qui va prendre le nom des Qing, les moines Shaolin et le temple Shaolin vont devenir une force rebelle. Et ils vont être combattus par la dynastie Manchu des Qing. On peut voir ici un ensemble de peintures sur rouleau impérial, qui représente l'empereur Yongzheng, qui est un des empereurs de la dynastie Qing, et qui aurait, là encore d'après la légende et selon des sources plus ou moins historiques, qui aurait détruit à plusieurs reprises le temple Shaolin. On raconte qu'à cette époque, suite aux destructions du temple, un second temple est construit plus au sud, le deuxième temple de Shaolin, le temple du Fukien. Et ce temple aurait lui-même été à nouveau détruit par les Qing, si bien qu'il ne reste aujourd'hui plus rien du temple original, qui rouvrira d'ailleurs que beaucoup plus tardivement dans les années 80, suite en partie au succès du film Shaolin Temple, interprété par Jet Li dans les années 80. Donc là, ce sont des peintures vraiment exceptionnelles des collections du musée, qu'on présente pour la première fois. Voilà, en même temps. Juste à côté, une pièce aussi qui est très historique et vraiment importante dans l'expo, c'est cette tenue officielle d'apparat de l'empereur Qianlong, qui est le dernier empereur de la dynastie Qing et le dernier empereur de Chine. Et c'est la tenue qu'il portait, on voit bien sur cette peinture reproduite ici. C'est la tenue qu'il portait pour passer en revue les troupes avant les batailles.
Si vous êtes fan de films de kung-fu, vous avez certainement reconnu le générique que vous venez d'entendre. Sinon, vous venez de découvrir l'ouverture mythique de la célèbre maison de production Shaw Brothers, dont les films illustrent abondamment le parcours mythographique. Des films peuplés de brigands, de prostituées, d'aventuriers, mais qui peuvent s'avérer aussi très réalistes.
Et je vous parlais tout à l'heure de cette littérature chevaleresque, dont la plus connue est Au bord de l'eau. Enfin, l'œuvre la plus connue Au bord de l'eau, avec ces fameux brigands qui sont en fait des justiciers, un petit peu comme des Robin des Bois, qui vont lutter pour protéger le peuple contre les oppressions et voilà, incarner des justiciers qui vont largement inspirer le cinéma.
Alors, l'histoire du cinéma de Kung Fu est inséparable d'une maison de production qui s'appelle la Shaw Brothers, qui dans les années 60 a modernisé le genre. Voilà, avec des productions en couleur et des films épiques qui s'inspiraient à la fois du western italien et des films de sabre japonais. Donc la Shaw Brothers, on peut dire que c'est l'Hollywood de Hong Kong, avec un producteur mogul, un producteur surpuissant qui s'appelait Run Run Shaw et qui avait sa villa au-dessus des studios, et des studios qui reconstituaient à peu près tous les décors qu'on peut voir dans les films, là par exemple, hein, ça c'est un bon décor de studio, et qui avait une équipe d'acteurs sous contrat qui faisait énormément travailler. C'était en général de jeunes acteurs qui avaient quasiment des statues d'idoles. Alors, on peut voir hein, des magazines, des disques qui racontent leur vie. Par exemple, là on voit le célèbre Tilung, on le voit avec son berger allemand. Enfin bon, on peut voir un autre avec sa petite amie. Donc c'était vraiment des idoles au sens propre. Dans les centaines de films produits par la Shaw Brothers, on peut déterminer deux genres majeurs. Le premier, ce serait des films consacrés justement à l'histoire du temple de Shaolin et qui détaillent des techniques d'entraînement. Alors là, on voit Jackie Chan dans Le Maître Chinois, où c'est aussi une série d'entraînements. Alors le Kung Fu de l'homme ivre, par exemple. Et on a aussi une autre salle qui est un peu cachée, parce que les enfants ne doivent pas la voir, parce que c'est un peu violent, qui est consacrée au cinéma justement épique, au film de sabre, inspiré justement de ces... des récits épiques comme au bord de l'eau. Alors là, c'est un autre type de film où on va voir en action les armes hein, qu'on a devant lesquelles on est passé dans le couloir. Et qui donc se réfère au monde du Jiangu. Alors le monde du Jiangu, c'est un univers parallèle qui est le monde de la chevalerie chinoise. Qui est peuplé de brigands, de justiciers, de seigneurs félons, de courtisanes, de prostituées. Et donc c'est un monde qui en fait est mythique et imaginaire. Et donc on va voir dans les films, en particulier d'un cinéaste qui s'appelle Chang Che, on va voir l'effet qu'ils font ces armes sur les corps, évidemment. Donc ce sont des films qui sont très violents, mais c'est une violence qui est théâtralisée. Le sang est rouge, comme au théâtre. C'est des films où il y a énormément de bons sentiments, puisque c'est là où toute la mythologie des frères de sang, des frères d'armes est exposée. Donc si un frère d'armes meurt, l'autre va se sacrifier pour le venger. Il y a même aussi des dames d'épée hein, qui sont aussi vindicatives que les hommes. Alors d'un côté, on a un cinéma qui est un cinéma de construction du corps, d'un accomplissement par la technique. Et de l'autre, on a un cinéma où les corps sont détruits, mutilés pendant le combat, ce qui est une autre forme d'accomplissement. Alors, dans les films consacrés à l'entraînement, il y a beaucoup de films d'un cinéaste qui s'appelle Lu Chia Lang, ou nom cantonais Lo Carling, qui a édifié le mythe de la chambre de Shaolin avec le film La 36e chambre de Shaolin. Alors, il n'y a que 35 chambres. Dans le temple de Shaolin, la 36e chambre est à l'extérieur du temple. Ça veut dire que c'est une chambre laïque. C'est là où on entraîne le peuple pour qu'il résiste justement aux envahisseurs mandchous ou au Qing. Voilà. C'est le sens de cette 36e chambre de Shaolin. Et Lu Chia Lang est lui-même un descendant de maître à disciple des moines de Shaolin. Donc là, il y a vraiment une symbiose historique entre le cinéma et les arts martiaux. Et quand on voit l'esprit de Lu Chia Lang, c'est quelqu'un qui est extrêmement technique. Lorsqu'il montre un mouvement, il le montre vraiment, c'est vraiment ce mouvement-là. On voit les corps qui sont entraînés, où chaque geste de la main, de la jambe, des pieds, etc., est un mouvement conforme. Donc là, on est dans un cinéma qui est extrêmement réaliste. Le cinéma de Chang Che, donc, qui se déroule dans le monde du Jiangu, au contraire, est un cinéma irréel.
qui se passe dans un univers parallèle, un univers magique. Et les films de brigands vont être modernisés pour donner lieu, par exemple, au film d'action de John Woo, voilà, qui récupère la mythologie aussi de l'héroïsme des frères de sang, donc du John Woo.
Enfin, l'Expo répond à la grande question que se pose à toute personne qui regarde un film d'arts martiaux chinois ou hongkongais pour la première fois. Mais pourquoi les combattants volent dans le ciel ou marchent sur l'eau? Une réponse qui prend sa source dans le lien entre nature, corps humain et arts martiaux que va sublimer un cinéaste comme King Ru et le film Touch of Zen, visible bien sûr dans l'exposition.
Puisque bien sûr, la pratique martiale est totalement... étrangère, hein, au départ à la religion. Les moines bouddhistes, on l'a vu, ont combattu en Chine dans des contextes historiques particuliers, mais bien sûr le bouddhisme et d'autres religions d'Asie excluent toute forme de violence. Et ce qui s'est passé, c'est que ce sont les combattants eux-mêmes qui ont intégré en fait tout un contexte culturel et religieux à leur pratique au fil du temps. En Chine, des gymnastiques thérapeutiques censé à la fois conserver le corps en bonne santé et équilibrer aussi les énergies du corps en lien avec celles de la nature sont connues depuis plus de 2000 ans. Voilà, il y avait ce qu'on appelait les gymnastiques des cinq animaux, par exemple, on va voir ça tout à l'heure, qui cherchaient aussi à imiter des postures animales et qui ont été utilisées par les arts martiaux, mais qui servent au départ à entretenir le corps en bonne santé, puisque entretenir le capital de santé du corps, c'est aussi développer l'aptitude à combattre. De même que savoir guérir, c'est aussi savoir tuer. Et ce qu'on a appelé à partir du XVIIe siècle les écoles internes, par opposition aux écoles externes comme les styles de Shaolin, ce sont des écoles martiales comme le Tai Chi par exemple, qui ont cherché à développer une force intérieure qui s'appelle le Jing et qui est une sorte d'élasticité des mouvements et qui s'appuie notamment sur les techniques d'alchimie interne du taoïsme et qui sont en fait en lien avec ces anciennes gymnastiques thérapeutiques et l'entretien du corps en bonne santé. Donc c'est extrêmement lié. Et à l'inverse, les écoles externes sont aussi liées bien sûr à des connaissances du corps, des techniques de souffle, on l'a dit tout à l'heure avec les moines Shaolin. Les écoles externes développent un style beaucoup plus athlétique et beaucoup plus spectaculaire en fait, beaucoup plus dans le mouvement. Les écoles internes et externes, ça ne signifie pas que les écoles internes seraient plus spirituelles. C'est une autre définition, une autre pratique de la force, en fait. Et ce lien, justement, avec les représentations du corps et de la nature et cette recherche d'alchimie interne, d'équilibre, avec de mise en relation du corps avec les forces de l'univers, c'est ce qui permet de dépasser les limites de la force physique. Et c'est ce qu'on voit dans la mythologie des grands maîtres d'arts martiaux, et c'est ce qui est traduit bien sûr dans le cinéma.
Oui, donc alors que par exemple dans les films occidentaux, pour qu'un personnage acquiert des super pouvoirs, il faut au moins qu'il soit exposé à de l'uranium ou qu'il soit piqué par une araignée radioactive. Les mouvements fabuleux, les sauts étonnants, etc., sont quelque chose qui relève de la pratique du kung-fu dans le cinéma. Alors évidemment, on n'est pas dans le cinéma de Michelang dont je parlais, comme le temple de Shaolin, là, qui se déroule encore derrière vous. Là, on est dans un cinéma beaucoup plus mythologique. Alors là, ça c'est le temple de Shaolin, on va voir Gordon Liu se battre au milieu de l'eau. C'est pas une bataille, c'est une osmose. Hein. C'est une façon de faire corps avec les éléments, puis on aura ensuite le vent, et puis on aura encore des combats en suspension dans l'air. Évidemment, l'exposition est aussi une façon de rendre hommage aux grands acteurs martiaux du cinéma. Donc avant, on verra Bruce Lee tout à l'heure, mais on a eu Gordon Liu dans le temple de Shaolin, on a vu Jackie Chan, on a vu Jet Li. Évidemment, ce sont des acteurs qui, pour qui l'art martial et la comédie sont aussi des choses complètement liées.
Dans la dimension
enfin je dirais cosmologique des arts martiaux. On parlait tout à l'heure de l'idée du lien en fait du corps entre du lien entre le corps et les forces de la nature. La montagne, c'est un concentré du chi en fait, d'énergie vitale universelle. C'est le sujet principal de la peinture classique. Et cette recherche du chi, donc d'harmonie avec l'énergie de l'univers, c'est à la fois ce qui guide le pinceau du peintre, qui représente le paysage, c'est toujours une représentation idéalisée en fait de cette harmonie universelle et du chi, et c'est ce qui guide aussi la pratique martiale, et c'est le but ultime en fait de cette pratique.
Là, c'est un film de King Woo qui s'appelle Touch of Zen. Alors King Woo, c'est un peu l'équivalent de Kurosawa pour le cinéma de Kung Fu, donc c'est un très très grand auteur qui était à la fois cinéaste et calligraphe. Et c'est le grand paysagiste hein, du cinéma chinois, c'est-à-dire que pour lui aussi, l'art martial n'est pas séparable de la dimension naturelle. Donc le film se passe dans des corps naturels, là, dans des forêts et des montagnes magnifiques. Il va saisir aussi bien un mouvement de Kung Fu que l'éclat du soleil sur l'eau ou le souffle du vent dans les herbes.
Après Big Boss, la fureur de vaincre, Opération Dragon et la fureur du dragon, René Château et AMLF présentent Bruce Lee, le seul, le vrai, l'unique, l'immortel dans Le jeu de la mort. Des combats fabuleux. Bruce Lee avec Ji Gyong. Le jeu de la mort, le dernier film de Bruce Lee, mais son plus grand. Venez voir le petit dragon abattre le géant de 2,20 m, Kareem Abdul-Jabbar. Venez le voir foudroyer le champion du monde de karaté, Bob Wall. Bruce Lee était entré dans la légende de son vivant. Il nous revient une dernière fois dans Le jeu de la mort.
Lorsque l'on fait l'histoire du Kung Fu, difficile de ne pas parler de l'acteur Bruce Lee, qui est ici superbement mis en valeur dans une installation vidéo qui dissèque ses mouvements, ses cris et sa technique, mais aussi revient sur le mythe intemporel de l'acteur.
Bah Bruce Lee, tout le monde le connaît, et tout le monde le connaît plus de 50 ans après sa mort, c'est ça qui reste tout à fait étonnant. Donc c'est quelqu'un qui est devenu une figure universelle, qui a mondialisé les arts martiaux chinois, et qui a popularisé le terme Kung Fu. Et c'est encore aujourd'hui, je ne sais pas, vous pouvez avoir une photo de Bruce Lee et la montrer en Chine, évidemment en Chine, mais aussi, je ne sais pas, en Russie, en Afrique, et n'importe où, tout le monde saura qui c'est. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent hein, d'un acteur qui reste aussi populaire des années après sa mort. Donc une figure mythique qui non seulement a influencé le cinéma, mais aussi a influencé socialement des mouvements, comme des mouvements d'indépendance anticoloniale ou des mouvements de minorités comme les Black Panthers aux États-Unis.
Aussi parce que Bruce Lee utilise cette arme donc, qui est le nunchaku, dérivé du fléau hari, qui est une arme des paysans, en fait, hein, ça servait à battre le riz. Et ça illustre toute cette histoire en fait du lien entre les arts martiaux et les révoltes populaires. Donc c'est cette idée qu'il illustre vraiment du kung-fu comme arme du peuple, puisqu'il va utiliser ce nunchaku pour combattre par exemple les sabres des occupants japonais dans ces films là, comme on peut le voir ici.
Quittons maintenant la Chine et le Kung-Fu pour s'envoler vers le Japon. Cette troisième partie de l'expo nous immerge littéralement grâce à la scénographie dans un film d'Akira Kurosawa pour nous conter le déclin des samouraïs au XVIIe siècle, déclin qui donnera naissance aux arts martiaux japonais comme le judo ou le kendo.
La troisième partie, Bushido, la voie du guerrier. Donc là encore c'est une partie qui est très scénarisée, très scénographié, hein, c'est vraiment un choix qui a été fait pour cette exposition. D'une part parce que, on l'a dit tout à l'heure, les arts martiaux sont étroitement liés aux arts du spectacle aussi, même dans leur pratique. Et aussi puisque le cinéma, la fiction, a beaucoup reconstruit en fait cette histoire et cette mythologie
contemporaine en fait des arts martiaux. Et c'est particulièrement vrai au Japon, puisque les arts martiaux contemporains qu'on appelle les Budo sont des héritiers des techniques avec ou sans armes des anciens guerriers féodaux, donc des samouraïs, mais ils sont largement l'époque contemporaine a largement revisité en fait cette image du samouraï et l'a idéalisée, voilà, en tant qu'homme d'épée, d'esprit parfaitement loyal à la voix du guerrier, donc au Bushido. Mais tout ça finalement n'apparaît qu'assez tard, justement au moment où les guerres féodales sont terminées, à l'époque Edo. Donc c'est au XVIIe siècle que ces anciens guerriers en fait sont libérés des guerres féodales, puisque le Japon avait été marqué auparavant par presque 10 siècles hein, de guerres féodales et de rivalités entre les seigneurs locaux. Et à l'époque Edo, donc le Japon est pacifié, et c'est à ce moment-là que cette ancienne élite militaire va commencer à théoriser, à enseigner ses arts martiaux et à en faire ce qui deviendra plus tard des arts martiaux contemporains. Voilà, le sabre qu'on peut voir là-bas devient à ce moment-là l'emblème vraiment de cette ancienne élite militaire, puisque à l'époque féodale, on combattait surtout avec des arcs et des lances, et va se construire donc toute cette image relativement récente en fait du guerrier médiéval et son lien avec la pratique martiale contemporaine. On a ici une armure hantée en fait, qui est inspirée de celle qui est au début du film Harakiri, donc vous pouvez voir un extrait là-bas, parler Stéphane, avec une bande-son composée par Yoko Higashi. C'est aussi une des ambitions de cette exposition de donner une part importante à la création contemporaine. On verra tout à l'heure une peinture de l'artiste japonaise Rina Yoshioka, et aussi à la fin de l'exposition une installation réalisée par les studios de cinéma thaïlandais de Bangkok, QFX Workshop.
C'est avec le thème de Lady Snowblood par Meiko Kaji que l'on rentre dans ma salle favorite de l'expo, puisqu'elle traite des samouraïs vagabonds, les ronins, et de la figure féminine des yakuza. La salle est une mine d'or de films, de planches de manga qui ont infusé dans toute la pop culture, comme la célébrissime scène dans la neige de Lady Snowblood, reprise par Quentin Tarantino dans Kill Bill, ou les scènes tirées du manga Lone Wolf and Cub de la série Mandalorian de Disney.
On va entrer dans une salle ensuite, qui est une salle spécialement dédiée, particulièrement dédiée au cinéma, qui va s'intéresser à la figure des ronins. Alors les ronins, ce sont les samouraïs errants, les samouraïs sans maître, puisque donc après pendant les Edo, les clans n'ayant plus d'intérêt à entretenir d'aussi grandes armées, ne sont plus restés qu'avec des petits groupes de guerriers, un peu d'apparat quand même, et pour une seule défense, on va dire, réduite, à leur service. Donc, qu'est-ce que sont devenus les autres samouraïs? Beaucoup sont partis sur les routes et sont devenus donc des ronas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient leur sabre au service de petits clans vindicatifs, hein, qui voulaient bouffer le clan voisin, ou alors de gangs, hein, donc ce qui donnera lieu à la naissance des samouraïs, des yakuza, pardon. D'autres ronins parcouraient le Japon et se livraient à des duels. Donc, en fait, les guerres ont été simplifiées en duels entre clans devenant des écoles, tout simplement, hein, des écoles de sabre, ce qui plus tard, sous une forme pacifiée, a donné lieu aux compétitions sportives. Alors le cinéma s'est intéressé aux ronins. Ce sont des personnages en couleur dont beaucoup ont des techniques différentes et des personnalités différentes. Alors on a par exemple le fameux Zatoichi, hein, qui est le ronin aveugle, donc il devient encore plus surhumain parce qu'il entend tout autour de lui, donc il a des yeux partout. Il y a également Kyoshiro Nemuri, interprété par le fascinant Raizo Ishikawa, c'est la photo en noir et blanc qu'on a là-bas, qui lui est le fils de la pleine lune parce qu'il est le fruit d'un viol d'une nonne japonaise par un missionnaire portugais, ce qui le maudit à jamais. On fait un être, un métis torturé par ses origines, et lui c'est la passe de la pleine lune, hein, c'est-à-dire qu'il fait tourner son sabre, il attrape la lumière de la lune, il hypnotise comme ça son adversaire. Donc voilà, ce sont des personnages ayant quasiment presque des super pouvoirs eux aussi, et qui font un trait direct avec le manga. Alors les ronins et les samouraïs ont aussi inspiré la figure du yakuza, donc le yakuza qui est le gangster japonais. Alors le gangster japonais se revendique du code d'honneur des samouraïs, mais en réalité son origine c'est plutôt les joueurs de cartes. Leur origine c'est plutôt les joueurs de cartes, c'est-à-dire le bakuto, ou alors les marchands ambulants, les tekiya, voilà, qui dressent leurs hôtels aux alentours des temples. Mais malgré tout, ils tenaient à ce qu'on les considère comme des héritiers du code de l'honneur. Et leur coach chevaleresque s'appelait le Ninkyo. Hein. Voilà. Et c'est à l'intérieur des films de Yakuza qu'est née une créature, un personnage totalement imaginaire, qui est celui de la femme Yakuza. Alors la femme Yakuza n'existe pas, n'a aucune existence historique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de femme homme de main, il n'y a jamais eu de femme Oyabun, c'est-à-dire chef. Mais elle a eu une grande popularité au cinéma. Donc elle évolue dans les milieux du bakuto, donc du jeu. Elle est lanceuse de dés ou croupière ou joueuse de cartes. Donc on a la pivoine rouge, hein, qui est une figure très célèbre. Et on a demandé donc à une artiste de Tokyo, Rina Yoshioka, de peindre, de nous faire une création inédite, donc de nous peindre une femme yakuza. Alors Rina Yoshioka, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la représentation de la femme dans l'imagerie populaire des années 60 et 70, à travers les affiches de films, les revues érotiques, aussi les publicités. Et donc elle a créé le personnage de Oriyu au bâton mystérieux, puisqu'elle cache son sabre à l'intérieur d'une canne en bambou. Elle a des fleurs d'équinoxe sur son kimono, et ces fleurs d'équinoxe deviennent un motif principal qui se transforme en traînée de sang. On retrouve une autre femme ici, donc qui dévoile son dos tatoué. Elle a un papillon et une déesse sur son dos. Alors beaucoup de yakuza, en effet, si vous êtes, bon, le propre du yakuza, c'est le tatouage, hein, et ces tatouages représentaient donc des fudo, comme on a pu le voir, hein. Et donc des des démons apprivoisés, mais qui étaient censés leur porter chance. Donc voilà, donc ça c'est une création dont on est extrêmement extrêmement fier et très très content de l'accueillir au musée. Voilà, une représentation populaire de la famille Apuzet.
Au contraire, on s'applique, on va poser ses mains, sa main très fort. On le dit, Clarisse, elle a besoin que d'une attaque. Là, elle est placée.
Elle, elle est bien là. Allez, on appuie. C'est Wapé, oui, c'est Wapé, c'est fort. Elle est championne olympique. Oui. C'est dans la poche.
Bravo, Clara, bravo,
Clarisse. C'est la collade entre les deux championnes, la championne olympique en titre. Quelle puissance.
Quelle finale. Bravo,
quelle revanche. Magnifique. C'est la patronne depuis 5 ans.
On a beaucoup parlé d'histoire ou de cinéma jusqu'à maintenant, mais l'ultime combat ravira également les pratiquants de karaté ou de judo, puisqu'il revient sur l'histoire sportive contemporaine de ces sports, avec de nombreuses reliques de sportifs français, comme le kimono et la médaille olympique de Clarisse Abeyenou.
Une frise chronologique résume ici un petit peu cette partie avec les grandes lignes historiques, le lien aussi des arts martiaux contemporains avec les anciennes techniques de combat des samouraïs, donc on appelle des bujutsu, on disait tout à l'heure que les arts martiaux commencent à être enseignés et à être théorisés et intégrer aussi davantage cette dimension donc théorique mais aussi morale, philosophique à l'époque Edo, précisément au moment où ils s'éloignent aussi des champs de bataille et qu'ils ne servent plus aux techniques militaires, puisque on utilise des armes à poudre, enfin les techniques ont changé. Mais à l'ère Meiji, donc ces arts martiaux vont être un petit peu délaissés, hein, comme vestige du passé, à une époque où on cherchait vraiment à moderniser le pays. Et il faudra attendre Jigoro Kano, donc le fondateur du judo, en 1882, qui va promouvoir donc cet art martial, surtout à destination de la jeunesse, pour ses vertus éducatives aussi dans un contexte de construction nationale. Donc selon ses propres mots, Jigoro Kano a découvert un trésor dans le judo, et ce trésor, c'est que cette pratique développe bien sûr les aptitudes physiques, mais qu'elle aussi développe la personne dans ses différentes composantes, à la fois sociale, psychologique, et qu'elle donne une forte assurance aussi. Et c'est suite à Jigoro Kano qu'on va vraiment patrimonialiser les arts martiaux et qu'on va les enseigner à destination de la jeunesse. Suite au judo, vont suivre d'autres arts martiaux comme le kendo, qui reprend les techniques anciennes de sabre, bien sûr, avec un sabre en bambou. Le kyudo, le tir à l'arc, l'aïkido, etc. Le karaté qui occupe une place peut-être particulière, puisque contrairement à la plupart des budo, donc les arts martiaux contemporains, le karaté n'est pas considéré comme étant lié à d'anciennes techniques des bushi, donc des guerriers, et n'est pas vraiment un bujutsu. Il serait originaire de l'île d'Okinawa. Il aurait été créé à partir du XVIIe siècle par des paysans, justement, auxquels on avait interdit d'utiliser des armes, et qui auraient utilisé donc des outils agricoles. On trouve ici le nunchaku ou des fossilari à la place d'armes. Et le karaté, étymologiquement, signifie les mains nues, et il consiste à utiliser aussi les parties de son propre corps comme des armes, les poings, les coudes, les pieds. Et puis on peut voir aussi, bien sûr, juste à côté, le kimono de Clarisse Abgenienou, donc notre championne nationale, quintuple championne du monde et double championne olympique, qui nous a vraiment très gentiment prêté ce kimono et cette médaille. Et voilà, on est très, très content de le présenter ici en illustration des arts martiaux contemporains.
Je vous l'avais dit en introduction, il est très difficile de quitter cette fort dense et belle exposition. Pourtant, elle s'achève avec une ultime pièce majestueuse, un immense samouraï du futur, digne de Goldorak ou de Gundam. Une pièce qui s'inscrit pertinemment dans l'histoire du Japon, mais aussi de sa pop culture.
Et on arrive à la fin dans le combat du futur, voilà, qui est un petit peu la conclusion de cette exposition. On arrive accueilli par ce grand robot, Blackfire,
conçu par les studios de cinéma thaïlandais QFX Workshop de Bangkok et qui rend hommage en fait à cette culture des robots japonais qui sont en fait des samouraïs du futur. Hein. Ils ont des armures qui sont identiques à celles des samouraïs, ils ont les mêmes casques aussi. Ils utilisent les armes traditionnelles que sont le sabre, la lance, mais ils sont dotés aussi bien sûr d'armes ultra sophistiquées comme les fameux fulgures au point de Goldorak. Les robots apparaissent dans le manga et dans les animés dans les années 60 avec Astro Boy, bien sûr, créé, qui est une sorte de Pinocchio du futur, créé par Osamu Tezuka, qui est l'inventeur d'ailleurs d'un grand nombre de genres de mangas. Et ces robots, qu'on va appeler mecha, donc du terme mécanique, vont vraiment se fixer à partir des années 70 autour de l'œuvre de Go Nagai, créateur bien sûr de Goldorak, mais aussi de Mazinger, qui l'a précédé et qui est d'ailleurs plus connu au Japon que Goldorak. Et ils vont devenir vraiment des robots géants, pilotés depuis la tête, et ils vont combattre donc ces créatures fantastiques et ces monstres. En même temps, dans les années, enfin un petit peu plus tôt, dans les années 60, est créé aussi sont créés les personnages de Sentai, donc Premier et Ultraman, dont le visage s'inspire de la tête du Bouddha. Et ce sont des personnages, eux, qui sont costumés, qui pratiquent les arts martiaux aussi, et qui vont combattre ces créatures particulièrement inquiétantes et géantes que sont les kaiju, et qui rappellent à la fois le risque des catastrophes naturelles ou nucléaires dans cette période qui succède de peu aux guerres mondiales. Voilà. Et puis les Sentai aussi sont souvent en groupe, forment un petit peu comme des clans, hein, un petit peu comme les anciens clans de guerriers. Et puis les jeux vidéo, juste en face, qui font référence à différentes thématiques de l'exposition. Donc il y a les robots, des jeux de combat avec des sabres, ou encore le jeu Street Fighter 2 ou Jackie Chan.
Enfin, pour clôturer la visite, j'ai pu poser quelques questions à Monsieur Julien Rousseau, conservateur du patrimoine et responsable de l'unité patrimoniale Asie au Quai Branly, mais surtout commissaire de l'exposition, l'occasion de revenir sur sa démarche. Après l'exposition, il y a maintenant 4 ans, Fantôme d'Asie, est-ce que le musée du Quai Branly est-il en train de devenir, comme le musée Guimet, le musée asiatique de Nice ou encore le musée Cernouchi, la nouvelle maison des amoureux de l'Asie, tellement vos expositions transpirent, on va dire, d'amour pour l'Asie?
Oui, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question. En tout cas, les expositions, on les a fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt, et avec peut-être une ambition particulière qui est peut-être vraiment centrale ici, hein, dans nos collections d'Asie, puisqu'on a des collections plutôt de périodes récentes, contemporaines, avec un accent particulier sur les arts populaires, minoritaires. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire ici, qu'on avait fait avec l'exposition Enfer et Fantômes, qui était dédiée vraiment aux cultures populaires contemporaines, avec un dialogue avec des périodes et des œuvres aussi plus anciennes. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec l'exposition Ultime Combat, qui essaye de contextualiser en fait la pratique contemporaine des arts martiaux, son lien avec le cinéma, la fiction, mais aussi avec des objets de culture populaire, en majorité issus des collections du musée du Quai Branly. Donc on espère que le musée du Quai Branly sera aussi, ou qu'il est déjà aussi, un musée dédié à l'Asie, mais bon, pas seulement, bien sûr, mais dans une optique peut-être différente de nos collègues, dans nos musées avec lesquels, l'autre musée avec lesquels on est dans une complémentarité de sujets et d'approches.
Alors là, je vais parler à la fois aux conservateurs, mais aussi aux commissaires de l'exposition. Quelles sont vos trois œuvres favorites de cette exposition, l'Ultime Combat?
celle qui vraiment vous touche particulièrement?
Alors oui, c'est difficile à dire. C'est pas vraiment une exposition où on a cherché à aligner des chefs-d'œuvre. C'est plutôt une logique d'ensemble d'objets qui sont en relation entre eux et qui construisent le parcours. Bien sûr, il y a des œuvres qui sont peut-être plus importantes. Il y a par exemple ce grand buste de gardien du Champa. Donc du site de Dong Duong qui a été prêté par le musée Guimet, donc qui est une pièce vraiment centrale dans l'exposition et au début de l'exposition en particulier, et qui est vraiment très très spectaculaire. Il y aurait aussi peut-être la tenue d'apparat de l'empereur Qianlong qui a été prêtée par le musée de l'armée et qui est la tenue que l'empereur portait pour passer en revue les troupes militaires avant les batailles. Voilà, et puis peut-être je finirai aussi avec peut-être plus un ensemble d'œuvres et qui est vraiment central en fait dans ce projet. Ce sont les commandes en fait qu'on a passées à des artistes contemporains, puisque c'est quelque chose qu'on essaye de faire, de valoriser dans nos expositions. Donc c'est d'une part la peinture de femmes yakuza qui a été réalisée par l'artiste japonaise de Tokyo, Rina Yoshioka. Voilà, que vous pouvez voir dans la dernière partie de l'exposition. Ou encore ce robot géant réalisé par les studios QFX Workshop de Bangkok, qui sont des studios en fait de plasticiens de cinéma et qui ont réalisé cette sculpture monumentale pour la fin de l'exposition.
Et enfin, dernière question, plus cinématographique celle-ci. Un film favori de Yakuza Iga ou un film de Kung Fu favori?
Ah, il y en a beaucoup, c'est dur à dire. Il y a peut-être un titre qui me vient ici, c'est un film que j'ai vu récemment. Bon, il y a Grandmaster, évidemment, de Wong Kar-wai, qui est dans l'exposition, qui est vraiment une esthétique particulière et qui est particulièrement impressionnant. Il y a aussi il y a beaucoup de films de Shaw Brothers que j'aime bien. Moi, j'ai commencé, enfin voilà, je le dis vraiment... Enfin, très naturellement avec vous. Moi, j'ai commencé à aimer l'Asie avec les films de la Shaw Brothers. Voilà, quand j'étais au lycée, ça fait partie des choses qui m'ont attiré vers l'Asie. Et par exemple, avec Crippled Avengers, que j'aime bien, qui a cette idée de tous ces personnages mutilés, en fait, cette idée que le handicap devient une force. Voilà, j'aime bien aussi les Zatoichi, la série Zatoichi, le samouraï aveugle. Voilà, j'aime bien cette idée de force mentale des arts martiaux et qui fait que la faiblesse devient une force.
Ce premier numéro d'Au-delà de la Grande Muraille s'achève. N'oubliez pas que l'exposition Ultime Combat se tient jusqu'au 16 janvier au musée de Quai Branly. Encore merci aux équipes du musée et à l'agence Claudine Colin pour leur accueil. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre une petite étoile sur votre appli. Au-delà des murailles revient très prochainement avec une escale à Nice. Bonne année 2022 à tous et bonne écoute sur Histoire d'Asie.